Chapitre 47. Je me réveille juste après l'aube. Je fais chauffer de l'eau dans la bouilloire électrique et me prépare du thé. Assis sur une chaise près de la fenêtre, je le bois en regardant au dehors. La rue est toujours déserte et tout est mortellement silencieux. Même les oiseaux semblent se retenir de chanter. L'obscurité se dissipe tard à cause des montagnes qui entourent la ville, tout juste si une faible lueur commence à éclairer les sommets à l'est. Je retourne dans la chambre pour vérifier l'heure à la montre que j'ai laissée à mon chevet. Mais l'écran est noir. J'actionne plusieurs boutons, en vain. La pile était encore neuve. Pourtant, ma montre est tombée en panne pendant que je dormais. Je la repose sur la table de chevet et frotte un peu mon poignet gauche où je la porte normalement. Le temps n'est pas un facteur très important ici. Tandis que par la fenêtre, je regarde ce paysage vide, sans oiseaux, je suis pris d'une envie irrésistible de lire un livre, n'importe lequel, du moment qu'il y a des caractères imprimés sur les pages. Je voudrais le prendre dans les mains, le feuilleter, suivre des yeux des phrases alignées sur le papier. Mais il n'y a pas un seul livre. Comme si le monde écrit n'existait pas. Je fais le tour de la pièce des yeux. Rien dans cette cabane ne ressemble à un texte imprimé. J'ouvre la commode de la chambre et regarde les vêtements qui y sont rangés. Ils sont tous soigneusement pliés, mais ils n'ont pas l'air neufs. Les couleurs sont fanées, les tissus usés par les lavages. Ils ont l'air très propres cependant. Il y a des t-shirts à col rond, des sous-vêtements, des chaussettes, des chemises et des pantalons en coton. Tout semble à peu près à ma taille. Ces vêtements sont plutôt simples, sans motifs superflus, comme si l'idée d'imprimer des motifs sur un tissu était tout simplement exclue. Aucun ne porte de marque. Là aussi, aucune trace d'écrit. J'ôte mon t-shirt qui empeste la sueur et en enfile un gris qui fleure bon le soleil et la lessive. Un peu plus tard, je ne saurais dire combien de temps exactement, la fille d'hier arrive. Elle frappe doucement à la porte, puis l'ouvre sans attendre ma réponse. La porte n'a ni clé, ni cadenas. La fille porte à l'épaule le même sac de toile qu'hier. Derrière elle, le ciel semble complètement dégagé maintenant. Comme hier, elle s'installe dans la cuisine et me prépare une omelette dans une petite poêle à frire noire. Elle fait chauffer un peu d'huile, casse les œufs. Une odeur d'œufs frais emplit la pièce, tandis qu'un grésillement agréable s'élève de la poêle. Elle prépare des toasts dans un petit grille-pain trapu qui a l'air tout droit sorti d'un film des années 60. Elle est vêtue de la même robe bleu pâle qu'hier soir et ses cheveux sont toujours retenus par une épingle. Elle a une peau magnifique, toute lisse. Ses bras minces brillent au soleil comme de la porcelaine. Une petite abeille entre en bourdonnant par la fenêtre ouverte, comme pour parfaire le tableau. La fille apporte le plat sur la table, s'assied et me regarde manger, comme hier. Je mange l'omelette fourrée aux légumes qu'elle a préparée, accompagnée de toasts tartinés de beurre frais. Je bois un thé aux herbes. Elle ne mange ni ne boit rien. La scène d'hier semble se répéter. Je lui demande « Les habitants de cette ville ne se préparent pas leur repas tout seuls ?»« Cela dépend, » répond-elle. « Les uns font la cuisine eux-mêmes, d'autres non. Les gens d'ici ne mangent pas beaucoup, de manière générale. »«
Ils ne mangent pas beaucoup ?»
Elle hoche la tête. Une fois, de temps en temps, ça leur suffit. Ils mangent quand ils en ont envie.
Tu veux dire qu'ils ne font pas de repas réguliers comme moi?
Tu serais capable de rester une journée entière sans manger? Je secoue la tête. Les gens d'ici ne souffrent d'aucun malaise, même s'ils ne mangent pas de toute la journée, poursuit-elle. Ils oublient de manger, en fait. Parfois, plusieurs jours de suite.
Mais moi, il faut que je mange, parce que je ne suis pas encore habitué à la vie d'ici.
Sans doute, dit-elle. Voilà pourquoi je te prépare tes repas. » Je la regarde.
« Combien de temps va-t-il me falloir pour m'habituer à vivre ici ?»«
Combien de temps ?» répète-t-elle. Puis elle agite doucement la tête. « Je ne sais pas. Ce n'est pas une question de temps. Le moment venu, tu te rendras compte que tu y es habitué. »
Nous sommes assis face à face, de part et d'autre de la table sur laquelle elle a posé ses paumes. Il n'y a aucun doute, ses 10 doigts sont bien réels. Je la regarde bien en face. J'observe les battements délicats de ses cils, compte ses clignements de paupières. J'étudie la frange qui tremble sur son front. Je ne peux pas détacher mon regard d'elle.
Le moment venu,
tu n'as pas à retrancher quelque chose de toi pour le jeter. Au lieu de le jeter, il faut l'accueillir, l'absorber en soi.
Je l'accueille ? Je l'absorbe en moi ?
Oui.
Et que se passera-t-il une fois que je l'aurai absorbé en moi ?
Elle incline un peu la tête pour réfléchir, dans un geste très naturel, qui fait bouger sa frange en même temps que sa tête.
Tu deviendras peut-être complètement toi-même ?
En ce moment, je ne suis pas complètement moi-même ?
Tu es suffisamment toi-même, dit-elle. Puis elle s'interrompt pour réfléchir.
Je ne parle pas de cela. Je n'arrive pas à expliquer.
Tant qu'on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre ?
Elle hoche la tête.
Quand cela me devient trop pénible de la fixer ainsi, je ferme les yeux. Puis je les rouvre, pour vérifier qu'elle est toujours là.
Vous vivez tous en communauté ? Elle réfléchit un peu avant de répondre.
Oui, nous vivons tous ensemble.
On partage certains équipements comme les salles de douche, la centrale électrique, le marché de troc. Nous avons quelques règles simples pour les utiliser. Rien de très compliqué, on n'a pas besoin de tout préciser. Je n'ai donc aucune explication particulière à te donner sur la façon dont tu dois utiliser telle ou telle chose, faire ceci ou cela. Le plus important pour nous, c'est que chacun se laisse absorber par la vie. Tant que tu fais ça, il n'y a pas de problème.
Se laisser absorber par la vie ?
Par exemple, quand tu es dans la forêt, tu deviens une partie de la forêt. Tu ne fais qu'un avec elle. Quand tu es sous la pluie, tu deviens cette pluie qui tombe. Quand c'est le matin, tu es le matin. Quand tu es devant moi, tu es une partie de moi. Pour dire les choses simplement.
Quand tu es devant moi, tu es une partie de moi ?
Oui.
Mais quelle impression cela fait-il d'être toi et une partie de moi en même temps ?
Elle me regarde bien en face, puis elle pose la main sur son épingle à cheveux. C'est très naturel, une fois qu'on est habitué, très facile. C'est comme voler dans le ciel.
Tu sais voler ?
C'est juste une image, dit-elle en souriant. Un sourire juste pour le plaisir de sourire, sans aucune signification spéciale. Tant qu'on ne sait pas voler, on ne peut pas savoir quelle impression cela fait. Voilà ce que je voulais dire.
Donc, c'est naturel et on n'a pas besoin d'y penser.
Elle hoche la tête.
Oui,
c'est simple, doux. On n'a pas besoin d'y penser. C'est naturel.
Est-ce que je pose trop de questions ?
Pas du tout. J'aimerais pouvoir t'expliquer mieux que je ne le fais, mais...
Tu as des souvenirs ?
Elle secoue la tête. Pose à nouveau ses mains sur la table, paumes ouvertes cette fois. Elle leur jette un petit coup d'œil, sans expression particulière.
Non.
Je n'ai pas de souvenirs. Dans les lieux où le temps n'a pas d'importance, la mémoire n'en a pas non plus. Je me souviens d'hier, bien sûr. Je suis venu ici. Je t'ai préparé un ragoût de légumes et tu as tout mangé.
C'est vrai, non? Et je me rappelle aussi un peu le jour d'avant. Mais avant cela, non, je ne sais plus. C'est comme si le temps avait fondu à l'intérieur de moi, et je ne fais plus de différence entre un événement et un autre. Alors, la mémoire n'est pas très importante ici. Elle me fait un grand sourire. Non. Les souvenirs, ce n'est pas nous qui nous en occupons, mais la bibliothèque. Après son départ, je m'approche de la fenêtre, mets une main en visière pour regarder le soleil du matin. L'ombre de ma main se reflète sur le cadre de la fenêtre, les cinq doigts nettement dessinés. L'abeille a cessé de tourner dans la pièce et s'est posée sur une vitre, immobile. Sans doute est-elle plongée dans une réflexion profonde, comme moi. Quand le soleil a passé son zénith, elle vient me rendre visite dans la cabane. Mais ce n'est plus Mademoiselle Saiki adolescente. Je l'entends frapper un coup léger à la porte, puis tourner la poignée. Un instant, je ne suis pas très sûr de qui se trouve en face de moi. La jeune fille ou elle? Un rien suffit à la transformer en l'une ou l'autre. Un léger changement de lumière, la façon dont le vent souffle. Un instant, elle est l'adolescente de ce matin. Celui d'après, elle est Mademoiselle Saiki. Mais rien de tout cela n'a réellement lieu, car la personne que j'ai en face de moi n'est autre que la vraie Mademoiselle Saiki. « Bonjour, » dit-elle d'une voix aussi naturelle que si nous venions de nous croiser dans un couloir de la bibliothèque Komura. Elle porte un chemisier bleu marine à manches longues et une jupe assortie qui lui arrive aux genoux. Avec son petit collier en argent et ses boucles d'oreilles en perles, elle est exactement telle que je l'ai l'habitude de la voir. Ses hauts talons claquent sur le perron, un bruit qui paraît légèrement déplacé ici. Elle me regarde de l'entrée, comme si elle voulait vérifier que c'est bien moi. Bien sûr que c'est le véritable moi, tout comme elle est la véritable Mademoiselle Saiki. Voulez-vous entrer boire une tasse de thé ? Volontiers. Merci, répond-elle. Puis elle entre d'un pas enfin décidé. Je vais à la cuisine et, pendant que l'eau chauffe, m'efforce de retrouver une respiration normale. Mademoiselle Saiki s'assied devant la table, sur la chaise qu'occupait tout à l'heure la jeune fille. On a l'impression d'être à la bibliothèque, dit-elle. Oui, à cela près qu'il n'y a pas de café et pas d'Oshiman-san. Et pas un seul livre, ajoute-t-elle. Je prépare deux tasses de tisane, les pose sur la table, puis je m'assieds en face d'elle. Par la fenêtre ouverte, on entend les oiseaux chanter. L'abeille est toujours endormie sur la vitre. Mademoiselle Saiki parle la première. À vrai dire, cela n'a pas été facile de venir jusqu'ici. Mais je voulais absolument te voir et parler avec toi. Je hoche la tête. Merci d'être venu. C'est moi qui devrais te remercier, dit-elle. Son habituel sourire flotte sur ses lèvres. C'est presque le même que celui de la jeune fille. Mais il a une profondeur légèrement différente que je trouve émouvante. Elle enveloppe sa tasse de ses mains. Je regarde ses petites boucles d'oreilles tandis qu'elle réfléchit. Cela lui prend un peu plus de temps que d'habitude, semble-t-il. « J'ai brûlé tous mes souvenirs », finit-elle par dire, en choisissant lentement ses mots. « Ils ont disparu en fumée dans le ciel. Aussi, je vais bientôt tout oublier. Il ne restera rien. Ce qui s'est passé avec toi, je l'oublierai aussi. C'est pour cela qu'il fallait que je te voie au plus vite et que je te parle, avant que tout ne s'évanouisse de mon esprit. Je tourne la tête et regarde l'abeille sur la vitre. Son ombre forme un petit pont sur le rebord de la fenêtre. Tout d'abord, le plus important, dit calmement Mademoiselle Saiki, c'est que tu sortes d'ici dès que tu peux. traverse la forêt. Sors-en et retourne à ta vie d'avant. L'entrée va bientôt se refermer. Promets-moi que tu le feras. » Je secoue la tête.
« Mademoiselle Saiki, vous ne comprenez pas. Je n'ai pas d'endroit où retourner. Depuis que je suis née, je n'ai pas le souvenir d'avoir été aimée ou désirée. Je n'ai jamais eu personne sur qui compter, à part moi-même. Cette vie d'avant dont vous parlez n'a aucun sens pour moi.
Pourtant, il faut que tu y retournes.
Même si rien ne m'y attend? Même si personne ne souhaite ma présence?
Ce n'est pas vrai, dit-elle. Moi, je désire ta présence.
Mais vous n'êtes plus là-bas, n'est-ce pas?
Elle baisse les yeux vers la tasse serrée entre ses mains. C'est vrai. Malheureusement, je n'y suis plus.
Eh bien, qu'attendez-vous de moi une fois que je serai retournée là-bas?
Une seule chose, dit-elle en levant la tête pour me regarder droit dans les yeux. Je voudrais que tu te souviennes de moi. Si tu te souviens de moi, cela m'est égal que tous les autres m'oublient.